On Jase vous est présenté par Olimel, des repas qui changent la game.
Bon midi, mesdames, messieurs. Lundi, le 20 mars 2023. Bon début de semaine. Bienvenue à cette toute nouvelle édition de On Jase. Yannick Lévesque et Martin Lemay qui vous accompagnent jusqu'à 13h aujourd'hui. Salutations à vous tous sur YouTube, Facebook Live, également RDS.ca ou via la télé sur les ondes de RDS et RDS Info. Guy Boucher et Bruno Gervais seront avec nous aujourd'hui. Grosse émission, plein de sujets, ça va être le fun. Salut Martin, comment vas-tu?
Je vais très bien, Yannick, et je vais prendre ton accent de Sorel.
Vas-y.
Là, ça fait. Là, les Canadiens ont hâte que ça finisse. Là, ça fait. Parce que là, encore une fois, là, défaite face au Lightning, c'était mieux, mais là, c'est le drama autour de Jonathan Drouin. Bien sûr, on va en parler. Mais le Canadien va affronter le Lightning cette semaine. Les Bruins de Boston, ça sera pas facile. Les gens ont été
patients,
positifs. Ouais, c'est ça. Mais là, il m'a amené. Puis, sais-tu quoi? Ils jouent du bon hockey ailleurs. Puis, le Canadien essaie fort, tout ça. Mais on va en parler au courant de l'émission. Petite salutation rapide de Yann. Salutation aux producteurs laitiers. Moi qui bois du lait, tu le sais, à part de ça, en temps. Fait que ça me fait plaisir de saluer ces gens-là. J'essaie. J'essaie de couper sur le lait, là, parce que ça a l'air que 3 poches par jour, c'est un peu trop.
Effectivement, je le confirme. Mais moi, j'en ai des salutations aujourd'hui, si tu veux bien, avant de commencer. C'est rare, mais aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour plusieurs artisans, nos collègues, l'équipe de l'Antichambre, qui ce soir présenteront la 3000e émission de l'Antichambre. C'est incroyable, ça a débuté en novembre 2008. Et tu sais, Martin, que j'ai un attachement particulier parce que j'ai été attitré, affecté à cette émission-là de novembre 2008 jusqu'en mars 2020. Donc, c'est 12 ans de ma vie professionnelle à RDS. Je l'ai produit, j'ai fait des reportages sur la route, je l'ai animé, l'Antichambre, à quelques reprises, et j'y ai travaillé sur une base quotidienne pendant 12 ans. Alors, toute l'équipe qui est là, des gens qui étaient là au début, des gens qui sont toujours là, des panélistes qui sont là depuis le début également. Je veux tous vous saluer, les artisans de l'Antichambre. 3000 émissions, c'est quand même incroyable quand tu penses à ça, là, en ondes depuis novembre 2008. Et ce soir, c'est la 3000e émission. Il y aura une édition spéciale avec plein de souvenirs. On va voyager dans le temps. C'est à 21h30, en fait, dès la conclusion du match des Sénateurs d'Ottawa sur nos ondes. Et c'est une émission spéciale de 90 minutes ce soir. Donc, je veux saluer évidemment Luc Bellemare, tous les animateurs qui y ont passé, tous les gens qui y ont travaillé, les artisans, les gens derrière la caméra également. Il y a une grosse équipe derrière l'antichambre, les techniciens, tout le monde. Félicitations, c'est votre journée. Donc, pour moi aujourd'hui, c'est spécial également. Ça me fait chaud au cœur. J'ai bien hâte de voir cette émission-là. Donc, félicitations à toute l'équipe pour cette 3000e ce soir de l'antichambre. Tu as participé toi aussi, Martin. Donc, tu fais partie des gens que je salue aujourd'hui. Beaucoup, beaucoup de gens au fil des ans ont collaboré à cette émission phare de RDS.
Oui, j'ai déjà été panéliste à l'antichambre. Il y a des gens dans le bureau qui devaient proposer mon nom de temps en temps, puis j'apparaissais. J'ai été là, moi, dans les premières années. En plus, là, j'ai connu le jukebox avec Alain Crête, puis après ça, les chaises bleues qui sont tellement usées, qui sont rendues dans le bureau de RDS. J'ai tout connu ça comme panéliste à l'antichambre. Donc, puis j'ai toujours aimé ça, puis je n'ai jamais caché la partie avant le show où on est là en train de regarder le hockey, puis ça jase. Moi, c'est la partie
dans que l'antichambre.
On jase vient un peu de là, de dire, moi, c'est ces conversations-là de corridor que je veux amener en onde. C'est un peu ça de où ça vient, on jase. Donc, un petit frère, si on veut, de l'antichambre. Donc, félicitations à tout ce beau monde-là, puis bonne 3000e à vos gens qui font l'antichambre.
Oui, exactement. On va regarder ça avec grande attention ce soir. Ben, Guy Boucher, lui, il participe à l'antichambre également de temps à autre. Et Guy, on le retrouve, il est avec nous en régulier à On Jase. Salut, coach, comment ça va?
Comment ça va, messieurs?
Ça va bien, ça va bien. Je dirais, ça va mieux que Jonathan Drouin. D'ailleurs, j'aimerais ça dire un petit quelque chose à ce sujet-là avant de te lancer la première question, parce qu'on en a sur l'histoire Joe Drouin. Puis pauvre lui, tu sais, il se passe tellement rien d'intéressant avec le Canadien que c'est sûr que tout le monde va tomber là-dessus à bras raccourcis. Moi, je veux juste dire ceci. Jonathan Drouin est en retard à un meeting pour la culture. Il a été puni, donc pas à l'entraînement, puis il n'a pas joué le match, même s'il était habillé. Je n'ai aucun problème avec ça. J'ai une petite question, par exemple, sur la technicalité de l'habiller puis pas le faire jouer, là, parce qu'il me semble qu'il y a des équipes qui ont joué à 19 joueurs, puis c'était pas la fin du monde. Martin Saint-Louis s'est dit que c'était dans la convention collective, alors je suis bien hâte de poser des questions là-dessus puis de m'informer. Mais là, depuis 2-3 jours, là, j'entends des affaires. T'sais. Un, je suis content de voir que la société québécoise, personne n'est en retard dans les gens qui nous écoutent puis les gens qui appellent ces tribunes téléphoniques. C'est des gens ponctuels comme pas un, parce que je vois le verre. On a fait... Excusez-moi, j'ai bloqué avec une LED face. On a fessé sur Jonathan Drouin parce qu'il était en retard de 2 minutes. On est allé dans les hypothèses que Jonathan Drouin n'aimait pas le hockey parce qu'il était en retard. Je ne vais pas le défendre. Il est en retard, il a été puni, pas de problème. Vous pouvez demander à Yannick et à Valérie Gautran, notre réalisatrice, comment je tombe sur le chou des gens avec mes pas retards, parce que quand le show commence, je suis là, mais je ne suis pas d'avance. Yann m'appelle, je suis dans ce décor-là. Valérie m'écrit, puis elle dit « Martin, t'es où? » J'ouvre la caméra, puis je fais « Je suis là. » C'est juste que je suis dans mes papiers, je suis dans mes stats, je regarde des affaires, je suis distrait, je passe tout droit. Si quelqu'un osait dire que parce que je ne suis pas connecté à moins 10 comme je devrais être connecté, puis merci Valérie, parce qu'avant c'était moins 20, puis il disait, il ferait une association en disant « le même pas sa job », ben il me ferait mal au cœur, parce qu'il n'y a rien que j'aime plus au monde. Puis s'il y en a un qui le sait, c'est Yannick Piggy, de faire ce job-là, de faire « on jase », de parler de sport. Vous pouvez m'arrêter dans la rue, je vous le dis, vous ne me dérangez pas, je vais vous taper sur le chou avant que vous me tapez sur le chou. C'est ça que je fais dans la vie, parler de sport, j'aime ça. Donc, arrêtez-moi, on va en parler. Mais quelqu'un qui viendrait dire que j'aime pas ma job parce que je suis captivé par ce que je fais puis j'ai oublié d'ouvrir ma caméra, je serais vraiment fâché de ça. Fait que de faire des associations, de dire « Joe Drouin n'aime pas le hockey, Joe Drouin c'est un ci, Joe Drouin c'est un ça. » Joe Drouin, tout ce qui est là, c'est un gars qui était en retard puis qui a payé sa dette. La seule différence entre lui et bien du monde, c'est que lui, il fait un job public puis que son boss le dit publiquement qu'il est en retard. Tandis que moi, il n'y a personne qui sort public à tous les jours pour dire « le mec est en retard ».
Ouais, ouais. Puis tu sais, pour faire la vraie comparaison avec Drouin dans ce cas-ci, il faudrait que toi, tu sois 2 minutes en retard pendant que le show a commencé. C'est ça. Si le show commence et tu n'es pas là, puis qu'à un moment donné, pouf, t'apparaît, alors que c'est toi l'animateur ou c'est toi qui est en charge, peu importe. Imagine-toi, tu sais, que t'es pas là. Puis à un moment donné, oh, puis que personne n'entend parler de toi avant midi et 5, par exemple. Nomme-moi le nombre de minutes, là, peu importe. Fait que, tu sais, mais tu sais, c'est pas pareil que d'être là, c'est la même affaire au hockey. Tu sais, le gars, le meeting commence à, je sais pas, 9h. Il est là, il est dans le gym, puis il est dans sa musique, puis il dort au gaz aussi. Il y a quelqu'un qui va passer et me dire « Hey, le meeting, oh, ouais, c'est beau! » C'est pas la même chose que le gars, il est pas dans l'entourage pantoute. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de nuances à faire. Puis la première, c'est que c'est un milieu de haute performance, à haute pression, où tu peux être remplacé par n'importe qui. Fait que la vérité, c'est que dans le national... Ça arrive jamais, des gars qui sont en retard pour des meetings. T'sais, j'ai fait 25 ans, là, puis j'ai même pas ça dans ma main, là, le nombre de fois. J'ai vu du monde en retard pour certaines choses, à des moments donnés, t'es supposé partir à telle heure l'autobus, ou ça, il va y avoir des choses comme ça. Mais ça va être réglé par les joueurs, par exemple. Les gars vont devoir tant de montants d'argent dans le pot de l'équipe, vont devoir payer d'une autre façon tout ça, mais c'est pas la même chose qu'un meeting d'équipe pour une préparation de game. C'est ça, là, c'est sacré, c'est... Tu peux pas... Peu importe la raison, sauf qu'il arrive des choses des fois. Puis il y a quelqu'un qui a appelé, puis tu sais, pour donner un exemple avec Carlson, par exemple, quand je suis arrivé, je sais que c'est arrivé par le passé, tout ça, puis je l'avais assis. J'ai dit, écoute, Eric, juste te le dire d'avance. J'ai dit, par rapport à arriver à l'heure, puis le kit, moi, je peux te backer s'il t'arrive quelque chose et que tu appelles, comme je vais backer n'importe qui est poigné dans un trafic de fou, qu'il y a un accident, qu'il y a un flat tire, n'importe quoi. Ça, il faut que tu sois en tant que leader, il faut que tu sois à mesure d'accepter qu'il y a des imprévus, puis qu'il n'est pas là. Mais ça, c'est averti d'avance, capable de dire à l'équipe, voici ce qui se passe, regarde, on va se reprendre, blablabla. Ça, là, il n'a pas de problème dans ce temps-là. Mais quelqu'un qui ne donne pas de nouvelles, qui n'arrive pas de nulle part, qui n'est rien arrivé, qui ne se présente pas, je ne parle pas de Drouin, là. Je parle en général, là, parce que je n'ai pas toute l'information pour Drouin. Mais c'est pas la même chose. Je ne sais pas si vous comprenez. Il a donné des exemples et vous jugerez par vous-même. Larry Robinson, c'est toute une sommité dans l'histoire du hockey, right? Une personne incroyable. Il est l'assistant coach de Jacques Lemaire. Jacques Lemaire, l'autobus, part, il va donner une heure fictive, là, part pour le match ou pour revenir à l'hôtel à 3 heures. Ben, à 3 heures pile, l'autobus est supposé partir. Mais tout le monde est dans l'autobus, puis Robinson n'est pas encore là, puis il est moins une. Puis Robinson n'est pas là. C'est l'assistant coach, là. C'est toute une sommité au monde respectée par tout le monde. Fait que Jacques Lemaire, il est le coach en avant. Il le voit dans le miroir. Il est à peu près 5-6 longueurs d'autobus en arrière. Il est passé 3 heures à 3 heures et une, ou surtout que c'est plus 3 heures. Il le voit qui s'en vient, là. Qu'est-ce qu'il fait, Jacques Lemaire?
Il est parti.
L'autobus part.
L'autobus est parti. C'est Larry Robinson. Il est là. L'autobus part. Parce que si l'autobus ne part pas, ça veut dire que pour le prochain gars qui arrive à 3h02, puis 3h03, puis ça, c'est pas grave. C'est que là, ça, c'est dans tes non-négociables. Que si tu laisses, tu le sais, c'est comme n'importe quoi. Tu laisses un peu aller là, un peu aller là, un peu aller là, le gars. Tu donnes un pas, ils vont en prendre 4, puis 5, puis 6. Puis là, après ça, t'es pogné avec tout le monde qui n'arrive pas à l'heure. Ça n'a pas de bon sens. Fait que qu'est-ce que Larry Robinson a fait? Pas dire un mot. J'ai pris un taxi. Il s'est en allé, puis il est arrivé, puis that's it. Mais tu sais, ça, t'es capable d'arranger ça par le gars se débrouille. Les joueurs entre eux autres vont dire, ah, t'étais pas là, tu payes dans la cagnotte, ci, puis ça. Mais un meeting de planification de match d'équipe, c'est pas pareil, là. Là, t'es en train de te préparer pour la guerre du soir, peu importe. Fait que là, toi, t'es pas là pendant X nombre de minutes. Soit tout le monde t'attend ou tu commences sans toi. Ben oui, mais quand ça commence sans toi, tu rentres n'importe comment, en plein milieu du meeting, ça se fait pas, là. Je vais te dire, tu viens de manquer les whatever, tu viens de manquer le début, ou tout le monde est assis là, puis tout le monde t'attend. Tu sais, tu peux pas, le prochain c'est qui, le prochain c'est quoi, ouais, mais c'est un vétéran, ouais, mais c'est parce que c'est pas une question de vétéran. C'est pire encore parce que c'est un vétéran. Tu sais, je donnais un exemple. Dans la Ligue américaine, puis qui est sous bad, il était en retard pour un meeting d'équipe. On jouait le gros match du soir contre la meilleure équipe, contre qui nous ont joué contre Ben Groot, puis Rochester. Ben, puis qui est sous bad, il avait emmené toute sa famille. Tout le monde. Puis il était en retard pour le meeting du matin. Fait que là, il est arrivé pour rentrer, je dis, j'attends moi dehors. Après le meeting, moi, j'ai continué le meeting pour le reste de l'équipe. Je ne recommencerai pas le meeting parce que monsieur est en retard. Après le meeting, j'étais le voir. Petit gars piqué. Un, c'est quoi ta raison? Ben, finalement, il n'avait pas vraiment. Il n'est pas levé, blablabla. OK, mais regarde, tu ne joues pas à soir. Ben là, coach, j'ai toute ma famille qui vient. Grosse game importante. Je le sais, piqué. Mais regarde, c'est ça le règlement. Là. Tu ne joueras pas ce soir.
Je le sais, c'est toi qui n'as pas le savoir. Tu es en retard.
Ah ouais. Il n'a pas joué le soir.
Mais ça.
On a gagné 6-2.
Mais ça.
Puis tu comprends-tu, tu sais, c'est. Il a donné un exemple. Ovechkin. Barry Trotz. Ovechkin, là. Il a même affaire, tant tard le matin, pour le meeting d'équipe, pour le match le soir. Et Barry Trotz, as-tu fait jouer Ovechkin le soir? Non. Ils ont gagné en plus. Puis c'est l'année qu'ils ont gagné à la Coupe. C'est parce que ce que tu vas perdre à court terme par rapport à cet individu-là, tu vas le regagner 1000 fois par rapport aux autres individus. Parce que là, tout le monde le sait, oh boy, c'est pas juste des règlements, c'est des standards, on peut pas niaiser avec ça. Tu sais, Vince Lombardi, un exemple, un des meilleurs coachs de l'histoire du football, ça, tout le monde le sait. C'est à un moment donné, 10 minutes avant le meeting, il y a un vétéran qui arrive, deux vétérans qui arrivent, il dit, vous êtes en retard. Il dit, ben non, coach, meeting dans 10 minutes. Il dit, non. Des vrais vétérans, des vrais leaders sont ici une demi-heure avant. Alors, ça m'amène à parler, tu as des règlements, mais tu as des standards. Puis des standards, c'est encore beaucoup plus important puis beaucoup plus puissant que des règlements. Des règlements, là, c'est stiff, c'est limitant, c'est limité. Puis plus tu as de règlements, bien plus tu vas avoir du monde qui vont les enfreindre. Tu vas tout le temps être en réprimande tout le temps. Des standards, c'est pas la même chose. Des standards, donc ta culture. Des standards, c'est on s'attend à quoi de toi? Sidney Crosby, pour un meeting, il n'arrivera pas une minute avant. Sidney Crosby, il va être là 45 minutes avant en train de regarder les tableaux, puis de voir comment ça se fait qu'on fait ça. Il va venir poser des questions, il va la regarder avec d'autres gars, des jeunes. Il va se préparer avant même le meeting, avant de le recevoir. Fait que ton standard, il n'est pas d'arriver 30 secondes avant, une minute avant. Ton standard est arrivé bien avant. Bergeron, la même chose. Comme je vous l'ai déjà dit, à Ottawa, l'équipe Canada. J'étais là, tous les gens d'équipe Canada pour la Coupe du monde. Les trois mêmes gars qui étaient là, c'était qui? Crosby, Tavares, Weber, qui étaient là comme à 7h15, 6h30 du matin. Alors que les autres arrivaient à 8h, 8h15. Fait que ton standard d'équipe, ton standard de culture est bien plus important, bien plus puissant que ton règlement. Ton règlement, il dit, ton meeting était à 8h30. Et Crosby est là à 6h30, 7h15. Déjà en train de se préparer, déjà en train d'aider les autres, déjà en train de montrer le chemin. Tu sais, quand on parle de culture, c'est ça qu'on veut dire, c'est les standards.
Mais les gens posent beaucoup de questions. Je m'excuse de t'interrompre, mais tu sais, je vois défiler les questions, puis c'est un peu ça que les gens se questionnent. Puis Martin a parlé brièvement au début, là, c'est que là, on l'a habillé parce qu'on était comme un peu mal pris. De ce que j'ai cru comprendre, c'est que le règlement de la Ligue nationale dit quand tes joueurs sont disponibles puis que tu respectes le plafond salarial, tu es obligé d'habiller 20 joueurs. Là, c'est ça qui est arrivé avec le Canadien. On était limité, il n'y en avait pas d'autres. Donc, il fallait que Martin Saint-Louis habille Jonathan Drouin. Le fait qu'il n'ait pas fait aucune présence, les gens voient ça comme une humiliation plus grande et tout ça. Moi, je trouve que Jonathan Drouin a bien géré ça quand même. Là, après le match, il a rencontré les médias, il a fait face aux médias. L'incident est clos, Martin Saint-Louis aussi. Je pense que le Canadien a bien géré la fin de la crise. Là. Mais c'est ça, je pense, qui accroche un petit peu les gens. Tu sais, c'est... Si la même chose arrive dans 2-3 ans, un Cole Caulfield, par exemple, il va falloir que ce soit la même chose que Martin Saint-Louis fasse, puis il n'y aura pas le choix. C'est un peu ça là, que les gens se posent la question. Penses-tu que Martin a bien fait de ne pas lui donner aucune présence, de le garder vraiment assis sur le banc du début à la fin? Puis Drouin semblait au courant, là, parce qu'il l'a dit, Martin m'a parlé avant, j'étais au courant.
Bien, écoute, je pense que le problème, c'est ça. Le problème... c'est qu'il n'était pas supposé jouer du tout. Okay? Ça, je suis convaincu que c'est exact. Ça. Là. Il n'était pas supposé jouer du tout. Tenez estrade, tu payes le prix, puis d'attitude, on passe à d'autres choses par après. Là, avec cette histoire de règlement-là, je trouve un peu... Je sais pas comment l'évaluer, parce qu'il y a d'autres équipes qui vont y aller à un joueur de moins. Fait que je comprends pas là, par rapport à ce que tu as le droit de faire.
C'est Yannick qui l'a bien expliqué. Hein? Tu sais, les équipes qui ont joué à 19, par exemple les Rangers, parce qu'ils défonçaient le cap salarial, fait qu'ils ont joué à 19 pour respecter le cap salarial. Yannick, okay. Il l'a bien mentionné, il faut que la règle, faut que si le gars est en santé et que tu respectes la règle, tu es obligé de... tu peux laisser un gars de jouer côté, à 20. Mais tu es obligé d'avoir 20 joueurs si tu respectes la masse salariale.
Dans ce cas-là, je veux dire, si j'avais déjà décidé qu'il ne jouerait pas, que j'avais dit à l'équipe que le joueur ne jouerait pas parce que c'est décidé d'avance, ces choses-là. Je suis convaincu que Martin l'a dit à l'équipe que, garde, si t'es en temps pour un meeting, tu ne joues pas le soir, c'est tout. Là. Ben, une fois que c'est dit, une fois que c'est établi, le problème après ça, Martin n'a jamais pensé à ça, lui-là, puis je le comprends. Là. Moi non plus, j'aurais jamais pensé à ça, que règlement, puis tu n'aurais pas d'autres joueurs autour, puis à mettre dans l'alignement. Fait que là, je me mets dans la tête avant, je fais, ah, tabarouette, là. Ça, là, c'est parce que je suis sûr 100% que Martin, ça ne le tentait pas du tout. De faire asseoir le gars pendant une game complète. C'est clair que ça magnifie tout. C'est humiliant. J'ai déjà eu des réprimandes pour des gars dans la Ligue nationale, dans n'importe quelle île, où ils n'ont pas joué la première période du tout. T'sais, je n'aimerais pas de nom pour ça, mais ils ont passé la première période sur le banc, puis après ça, je les ai mis en deux, puis en trois. Mais c'est parce que c'était ça que j'avais déjà établi d'avance. Là, si j'avais déjà établi d'avance que tu manques le match au complet, ben, je ne peux plus revenir là-dessus. Faut que tu manques le match au complet. Puis avec ce maudit règlement-là, ben là, il a été pogné pour l'asseoir sur le banc tout le match. Fait que là, il y a un concours de circonstances qui fait que ça a été pire que ça aurait dû l'être, puis c'est magnifié. Mais en bout de ligne, le joueur... C'est ça. Tu sais, je veux dire, si c'était ça, le règlement, il n'a pas le choix, sinon il perd la face après. Tu sais, quand il dit des non-négociables, chaque coach a des non-négociables. C'est-à-dire que les non-négociables, c'est pour tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est là-dessus que tu vas perdre ton club si tu y vas pas avec ce que tu as dit. Moi, c'est mon non-négociable, moi, c'est l'attitude, l'éthique de travail et la discipline. Pour mes vedettes, pour n'importe qui. Fait que discipline là-dedans, ça fait partie des retards, des ça. Ben, si tu le fais pas, tu le dis, mais tu le fais pas, puis il n'y a pas de conséquences, ou tu allèges tes conséquences, t'es mort. Tu vas perdre ton club. C'est rien qu'une question de temps. Puis si c'est une vedette, puis que c'est un ça, puis pour la discipline, pour son éthique de travail ou pour son attitude, tu agis différemment avec lui qu'avec les autres, tu vas perdre ton club. C'est sûr. Parce que ça, c'est des choses que tout le monde contrôle. C'est pas du talent, c'est pas un rôle, c'est pas le nombre d'années que tu as été là, le nombre de points que tu fais, l'argent que tu fais. Ça n'a rien à voir avec ça. Là. C'est tu contrôles ta discipline, tu contrôles ton éthique de travail et tu contrôles ton attitude. Donc, c'est pour tout le monde. Fait que Martin, c'est non négociable. Il a établi que ça faisait partie un de ses non négociables. Il n'y a pas le choix d'y aller et d'être drastique par rapport à ses non négociables. Mais quand je vous dis, chaque coach va agir différemment, c'est à toi d'établir c'est quoi tes non négociables. Mais tu sais, dans un cas où, par exemple, tu as un gars qui est pogné dans quelque chose, puis tu le dis d'avance à l'équipe, regarde les boys, on a tel gars qui est pogné dans telle affaire, on le sait, on va l'attendre 5 minutes, toute la gang. Fait que le meeting, il sera pas à 2 heures, je vous le colle d'avance, il est à 2h05. Parce qu'il revient de son passeport, whatever. Pas de problème.
Mais il y a un accident, il peut avoir un accident d'auto.
Il peut avoir un accident d'auto, il peut avoir un flat, n'importe quoi. Mais tu le sais d'avance, tout le monde est averti. Fait que là, tu te prépares d'avance. Fait que l'équipe n'aura pas de problème avec ça. Mais quand tu ne sais pas ce qui se passe, quand le gars n'est pas là pantoute, tu n'es pas capable de l'en joindre rien, bien là, à un moment donné, toi, il faut que tu continues avec ton groupe, avec l'horaire qui était déjà établi. C'est, tout le monde ne peut pas attendre.
Je pense que tu sais, on a arrêté Nono de pas en parler. Là, je pense qu'on a fait le tour, mais sais-tu quoi? Moi, je trouve qu'il y a du bon dans ça, dans le sens de Martin Saint-Louis a dit clairement au public la culture, c'est plus important que n'importe qui. Fait qu'à cette heure, ça s'applique pour tout le monde. Puis je trouve que ça, c'est une bonne nouvelle d'avoir un commandant de bateau qui lui dit ici, il n'y a pas un individu qui est plus important que la culture. Fait que le problème est réglé. Allons de l'avant. Allons de l'avant.
Comment exemple pour le junior, parce qu'on parle beaucoup de junior majeur de ce temps-là, puis de ci, puis de ça, tu sais, d'affaires négatives, mais. Moi, j'étais junior majeur et j'étais coach en chef. Et je n'étais pas tout seul. Dans mes règlements, dans ma culture d'équipe, l'école, c'est très important pour moi. Fait que moi, quand un joueur manquait un cours, j'avais demandé au professeur de m'aviser moi directement, l'école m'avisait moi directement, parce que s'il manquait le cours, pour aucune raison, il manquait le match, qui était le prochain match, il avait à écrire une lettre d'excuse au professeur. Il avait à reprendre 3 fois à l'école le temps qu'il avait manqué. S'il avait manqué un cours d'une heure, il fallait qu'il se présente en retenue pour 3 heures à faire les travaux. Et c'est arrivé à un de mes top joueurs, notre grosse année, quand on a gagné. Je ne veux pas nommer le nom. L'école ne m'a payé pas, venu, pourquoi t'es pas allé? Ben, c'est notre grosse game à soir, c'était contre Shawinigan. C'était la grosse affaire, grosse rivalité. Fait que c'était mon top scoreur de but puis tout ça. Fait que là, j'avais le choix, là. Ah, ben là, je peux pas, c'est la grosse game à soir, qu'est-ce que je veux? Ah ouais? Non, j'ai appelé le gars, il n'y avait aucune raison. Ben, il n'y a pas le choix de match, on a gagné, il a fait une lettre d'excuse, puis il est allé faire ses 3 heures. Là, tout le monde savait que c'était pas juste des mots, c'était pour tout le monde.
Ouais, finis ton histoire, puis après ça, on va changer de chien.
Non, mais c'est parce que c'est comme Martin, ta culture est plus importante. C'est parce que c'est pas juste pour le joueur-là, c'est pas juste pour le match-là. C'est pour l'ensemble de ton organisation. C'est cette ligne directrice-là qui va faire en sorte que là, à la place d'avoir 3, 4, 5, 6 autres gars qui vont passer à la ligne tout le temps, ben, t'en auras pas. Puis là, les gars vont pouvoir le transmettre à tous les niveaux qui arrivent. Puis c'est ça, Boston. C'est ça, Boston. C'est ça, Pittsburgh. Ça a été ça, là, à Chicago pendant des années. C'est comme ça. Fait que tu peux pas demander une culture, faut que tu la bâtisses, puis tu la bâtis comment? Avec tes standards, puis ta constance dans tes standards. Et oui, comme à Tampa Lojo, les 3 gars qui se sont assis sur le banc. À un moment donné, c'est pour tout le monde. Fait que est-ce que tu as le guts puis le courage de le faire ou non?
Oui, visiblement, Martin Saint-Louis, il avait le guts de le faire. Parlons-en de Tampa. Canadien, quand même commencé le match de belle façon, menait 1-0 et même sorti de la deuxième, je pense, en avance 3-2, même si le Canadien s'est fait dominer au chapitre des lancers. Comme je parlais avec Yannick la semaine passée, Guy, le Canadien ne peut pas rivaliser. avec les équipes en termes de talent. Mais ils sont dans les matchs parce qu'ils travaillent, parce qu'ils essayent d'appliquer une bonne méthodologie de jouer défensivement, sans tricher. Puis le Canadien reste dans les matchs, mais le talent pour Tampa était trop fort. Puis là, tu penses-tu que Tampa est prêt, bien bâti pour les séries, ou tu penses qu'il manque quelque chose?
Écoute, une excellente équipe encore. Ils ont tous les gros éléments qu'il y avait par le passé. Je pense qu'ils ont besoin encore des semaines qui restent pour continuer à tu sais, les nouveaux Jeannot qui est arrivé. On voit Eagle a scoré 3 buts, puis ça, c'est vraiment important parce que ce que je vois, 2 choses. Un, il va avoir un adversaire redoutable qui est encore plus près que jamais en Toronto. Ils n'auront pas l'avantage de la glace, qui ne les a pas dérangés dans le passé, mais quand même. Mais surtout, ça va être la première fois que ça va faire 4 ans en ligne qu'ils se retrouvent dans une situation, parce que les 3 années d'avant, là, ils sont rendus jusqu'à la fin. Il n'y a aucune équipe dans la Ligue nationale qui a joué autant de matchs que eux. Donc, c'est clair qu'à la longue, à un moment donné, ça va faire mal. Puis surtout, c'est que c'est pas la même équipe. Il te manque des éléments clés. Puis il y en a qui vont se dire, ouais, mais Stamkos, oui. Mais c'est pas parce que t'es pas une vedette qui n'est pas un élément clé. Puis moi, McDonough pas là, puis Palat pas là, ils sont plus dans cette équipe-là. Ça, c'est sans enlever Gourde, Goodrow, puis l'autre, là, aide-moi, Martin, Goodrow,
Coleman.
Coleman. Bien, ça veut dire qu'il y a d'autres joueurs qui ont pris la place de ces gars-là. Et je ne suis pas convaincu, mais moi, j'adore Ego. Fait que ça, c'est clair que c'est un bon ajout. Paul, c'est quand même un bon ajout aussi. Puis tout ça, mais à un moment donné, à force d'en perdre, à un moment donné, il y a une limite à ce que tu peux perdre. Puis pour moi, Palat, c'était le couteau suisse de cette équipe-là. C'est un gars de pression incroyable. C'était pas que c'était un gars extrêmement gros, mais il jouait gros. C'est là que pour moi, il est plus gros que Ego. Plus talentueux que Paul, bien plus talentueux que Jeannot, tu comprends? Et ça, je vois pas comment ils vont remplacer ça. À court terme, peut-être une série, mais sur 4
défensivement séries, aussi.
Défensivement avec McDonough, puis même, tu as raison, défensivement, Palat aussi, le Palat, là,
Palat,
il était à toutes les sortes. Premier désavantage numérique, il y avait un gars sur la première qui faisait pas job, il était rendu là, Kucherov, puis Stamkos, puis point, ils voulaient tous jouer avec Palat. Tout le monde veut jouer avec Palat parce qu'il fait tout le travail sale, puis en plus, il y a le talent, puis l'attitude, puis l'éthique de travail, puis il frappait, puis il back-checkait, bloquait des shots. Écoute, ce gars-là était tellement important, cette équipe-là, puis il était tout le temps là avec des gros buts au gros moment de pression. Puis McDonough, ben c'était quelqu'un qui solidifiait leur défense. Un petit peu comme on voit là, avec Edmonton, là, qui sont allés chercher Ekholm. Même chose avec le gars qui sont allés chercher à Los Angeles, là, qui les aide, le Russe.
Rabrikov.
C'est ça, ouais. Fait que tu sais...
Mais, Guy, ils ont le meilleur gardien au monde en ce moment. Donc
ouais,
ça,
Yann,
ça vient
changer la donne. Le Canadien l'a eu longtemps, le meilleur défenseur. Le meilleur gardien but, le Canadien l'a eu longtemps. C'est ça. Tu viens de répondre à la question.
Le Canadien, j'ai
eu
une équipe à la hauteur du Lightning.
Si t'enlèves, mettons, un de tes top 3... Et ton gardien, qui est le meilleur au monde, on est tous d'accord que c'est le meilleur. C'est pas lui, présentement, qui a le meilleur chiffre. Là. Parce que tu y as enlevé...
Non, je le sais, mais... Je comprends.
Un palate qui bloque des shots,
moi,
tu y as enlevé
demandes...
McDonough.
Je suis d'accord.
Si tu me demandes de prendre une gageure, là...
Non, je suis d'accord que...
Je gagerais pas contre le Lightning.
Ils ont le joueur le plus important. Sauf que, pour moi, ils ne sont plus aussi pactés aux as, à l'attaque et à l'avant... Ils sont encore dans le top, absolument. Est-ce qu'ils peuvent gagner? Absolument. Est-ce que je gage contre eux? Non, je ne gagerai pas une scène. Mais c'est possible que dans une situation où c'est 2 équipes presque égales, tu sais, il y avait ce monde-là l'année passée, puis ça a pris quoi? C'était en 7? Right? Toronto?
Tu veux dire, Leafs, oui, en 7.
Ah, contre Toronto? Oui, en 7, oui.
Ça, en 7, ça a tout pris. Palat était là, puis McDonough était là. C'est ça que je veux dire. C'est quand, là, quand c'est ça, différence, et que tu enlèves ça, il ne reste pas beaucoup de différence. Là.
Ah, c'est sûr.
C'est juste ça.
Ça va être une bonne série.
Ben, écoute, ça fait longtemps que j'ai pas eu hâte comme ça aux séries, exactement pour cette série-là. Là. Ouf! Merde.
Même chose pour moi.
C'est sûr.
On jase vous est présenté par Olimel, des repas qui changent la game.
On est de retour accompagné de,
avec
Guy Boucher.
Guy Boucher. Vas-y.
On va rentrer. Guy, non, mais Guy, je vais te donner, je vais te laisser rentrer Bruno pour qu'il puisse te saluer. On va dire bonjour à Bruno Gervais, qui va s'amener dans quelques instants. Hello, le Bruno.
Un ancien Lightning.
Hello, le gars.
Salut, Bruno.
Comment ça va? Ça va bien. Rapidement, Yann, si tu me permets, regardez les deux gars juste pour faire un petit sujet avec, avec Bruno puis Guy. Je n'avais parlé avec André Tourigny qui avait dit que l'an passé, son équipe avait souffert le martyr après la date limite des transactions. Autant qu'il avait bien tiré son épingle du jeu jusqu'à la date limite des transactions, mais après ça, ça avait piqué du nez. Cette année, sachant ce qu'il avait vécu, il allait avoir une discussion avec ses joueurs. Puis on voit, là, les Coyotes vont bien, là. Martin Saint-Louis, l'an passé, l'équipe était éliminée, mais c'était tout nouveau, tout beau. Il y avait une adrénaline, comme vous deux, vous aimez ça dire, Bruno et Guy, une adrénaline artificielle qui faisait que les gars avaient retrouvé le plaisir de jouer, puis on voulait impressionner le nouveau coach. Là, cette année, calendrier excessivement difficile pour Canadiens, et ça ne sera pas facile d'ici la fin de l'année. J'aimerais ça avoir le regard de Guy qui l'a vécu avec les Sens à sa dernière saison, puis Bruno qui l'a vécu également dans la Ligue nationale de hockey comme joueur. À quel point c'est pénible, ces 12-13 derniers matchs-là. Bruno?
Bien, pour commencer, puis c'est vrai que ça dépend des scénarios. Puis tu sais, tu vois, on peut juste penser aux Sénateurs l'année dernière. Je pense à partir du mois de mars, c'était la meilleure équipe dans la Ligue nationale. C'est un groupe de jeunes joueurs. Tout d'un coup, il n'y a plus de pression. Ils sont là, ils ont du plaisir. Ils vont juste s'amuser. Puis un joueur qui n'hésite pas, un joueur qui n'a rien à perdre, des fois, ça peut être dangereux. Des fois, les étoiles s'alignent puis ça fait ça. Sauf que dans la plupart des cas, et dans différentes équipes, moi, je l'ai vécu avec les Islanders à certains moments, mais c'était une équipe où il y avait beaucoup plus de vétérans que de jeunes joueurs. Là, ça devient difficile. On dirait que quand tu arrives à la date limite des transactions, un, tu te fais, tu vas soustraire certains joueurs. Il y a certains joueurs qui ont été échangés, qui s'en allaient dans une autre direction. Puis de là, il y a un vide. Fait que tu passes la date limite des transactions, puis ton équipe est encore moins bonne qu'elle pouvait l'être avant la date limite des transactions. Il n'y a pas des fois cet effet-là de sang nouveau, d'espoir, de joueurs qui viennent t'aider immédiatement. Fait que ça vient faire mal au moral, ça, c'est certain. Puis après ça, c'est qu'après la date limite des transactions, jusqu'à la fin de l'année, il en reste beaucoup de hockey. Fait que là, on dirait que tu arrives dans les prairies, là, puis là, tu vois les longs, longs, longs champs, puis là, tu réalises que la route va être longue. T'as une prise de conscience d'où tu es comme équipe à cause des transactions, des décisions qui ont été prises. Et là, ça peut être long. Fait que de créer cette espèce d'émotion-là, cette intensité-là, mais créer artificiellement cette émotion-là, c'est difficile. Ça devient long, ça devient redondant, ça devient dur pour les joueurs, ça devient dur pour l'entraîneur, ça devient dur pour tout le monde. Et puis, regarde, c'est des professionnels, c'est des joueurs qui sont payés pour jouer au hockey. Il y a bien pire que ça sur la planète, hein, je pense. Mais ça reste que ça fait quelque chose à tous les jours. L'enthousiasme ou l'objectif, ou tu es un compétiteur puis tu n'as rien au bout, tu le fais juste pour le faire, ça devient très, très dur moralement. Et on le voit, depuis la date limite des transactions, il y a des moments où tu réussis, il arrive quelque chose, tu réussis à injecter une dose d'adrénaline, une dose d'enthousiasme, mais rapidement, ça se dissipe. Et là, on le voit, les hauts, les bas, les matchs qui sont échappés, les matchs qui sont à oublier, tu veux juste tourner la page parce que tu veux tranquillement te rendre jusqu'au bout. Mais c'est un moment de l'année dans la situation où ils sont présentement. Ils ne sont pas les seuls. C'est vraiment pas facile. Puis André Tournier l'a vécu. Il ne voulait pas le revivre de la même façon cette année parce que c'est pas facile.
Guy?
C'est un enfer. Yeah. On va se dire les vraies affaires, là, que ce soit le coach, les assistants coach, les joueurs. T'es un compétiteur. T'as honte de ne pas faire des séries. T'as honte des matchs où tu te fais défoncer. Quand t'as pas les outils en plus, regarde, devant les médias, tu vas. Puis devant tes joueurs, devant les médias, tu vas tout donner ce que t'as comme espoir, comme Bruno dit. tu vas essayer de ressortir des speeches pour aller chercher ci, ça, ça, mais la vérité, là, t'es assis dans ton bureau, là, pis tu tapes, ouais, ça va-tu finir, là? Parce que, tu sais, tu veux pas, tu gaspilles des munitions, là, comme entraîneur. Tu gaspilles des speeches, tu gaspilles de l'émotion, parce qu'à un moment donné, là, t'as 82 games à faire, plus tes games d'exhibition, là. T'essayeras ça, frère, toi, là, le 90 speeches à 20 séries, là, où est-ce que t'amènes quelque chose de nouveau à chaque fois, puis que t'amènes de la motivation à chaque fois, puis t'es capable de... À un moment donné, là...
T'es tough, c'est sûr.
Ah, tabarouette, gars, puis moi, je suis monsieur imagination, là. Ben, j'en dors pas la nuit pour arriver avec Bruno, il m'a eu, là, il va vous le dire, là. Mm. Moi, je me faisais un devoir d'arriver avec quelque chose de nouveau, j'arrive, me faisais un devoir, mais c'est parce qu'à un moment donné... T'arrives à motiver tes gars, pourquoi au bout de la ligne? Tu sais, tu n'iras rien gagner, puis là, ça n'a pas marché. Pourtant, c'était le même speech que tu aurais fait avec une équipe potable ou meilleure, puis il aurait tout arraché les bandes, ça aurait été extraordinaire, mais là, tu n'as pas les outils. Tu sais, le coach, là, il est assis sur dans son jockey, là, puis dans son petit chariot avec le cheval, puis le cheval, il y a une jambe dans le plâtre, là. Là, t'es avec les autres, puis let's go, puis ça fly à côté de toi, puis ben beau fouetter le cheval, puis crier de tous les noms, puis à un moment donné, là, c'est correct, là. Fait que, non, regarde, c'est très, très, très difficile, comme André Tourigny l'a dit, là, gars, il vient de vous le dire, puis tu sais, on est des entraîneurs d'expérience, on s'est tous rendus là à cause de notre capacité de nous adapter. À un moment donné, c'est pour ça que je dis, il est temps que ça finisse, parce que, regarde, tu vois, il arrive des affaires comme Drouin, là, il y a un autre qui se blesse, l'autre, il casse la main, puis là, un moment donné, tu sais, tout ce qui s'étire, là, à un moment donné, ça se salit, là, pour finir de la lire. Ça, l'affaire, c'est qu'il te reste des Ilonen, des Gurianov, qu'eux autres, tu sais, ils sont dedans, puis ils veulent avoir un contrat, puis c'est justement pour ça qu'ils ont des buts. Comment-tu, eux autres, là, oups, mais tu sais, des Hoffman, puis... Les autres gars de même là, qui sont là l'année prochaine, puis tout ça, là. Ouf! Ouais.
C'est sûr que c'est pénible. Ben non, puis, tu sais, nous, on regarde, puis on rit de ça, mais de l'intérieur, là, il n'y a rien de le fun là. Guy, tu l'as vécu, mais la bonne nouvelle, c'est que là, tu ne le vivras pas, tu vas le vivre différemment avec nous autres, parce que nous autres, on va quand même s'amuser jusqu'à la fin. On va te libérer, coach, on va te laisser vaquer tes occupations. Et on va te retrouver avec grand plaisir. Je pense que c'est demain. Demain, tu reviens avec nous autres demain midi.
C'est bon, messieurs. Amusez-vous avec Brown, le Pride and Joy de Saint-Hilaire.
Salut, ton voisin.
Salut,
Guy. Avant de poursuivre, Bruno, si tu le veux bien, on va juste aller faire un petit tour du côté du complexe Bell de Brossard. Il y a quelques joueurs qui ont rencontré les médias. On a des extraits à vous présenter. Et on me dit que c'est au Centre Bell. Oui, parce qu'il y avait la photo d'équipe. La photo d'équipe encore. Ils en prennent combien par année? Je vais te poser la question, Bruno, tantôt, parce que c'est pas la première fois. Là. Ça fait au moins deux ou trois fois qu'ils prennent une photo d'équipe parce qu'il y a eu des changements. Écoutons les joueurs, puis on en discute au retour. Quatre.
C'est sûr que quand les gars viennent dans la line-up, en plus, ils sont excités, ils ont hâte de jouer. Ça fait plusieurs semaines qu'ils n'ont pas joué aussi. Ça va faire du bien, ça va amener une énergie nouvelle aussi. Puis ceux qui vont nous aider à pousser dans la bonne direction. C'est une grosse semaine. En fait, je pense que c'est le dernier mois en général. On a affronté des équipes de haut classement. Puis ça va continuer d'ici la fin de la saison. Puis je pense que c'est d'arriver prêt puis de jouer comme si on jouait contre n'importe quelle autre équipe, jouer dans notre système puis se concentrer sur notre jeu.
Pour some of those guys, injury-wise, and... You know, they work their butts off every day. I've seen them, you know, firsthand in here. And to see them back out there, a lot of good energy out of them, too. You know, I thought Docker looked like he was ready to play. And good for us. And obviously, hopefully, in the next upcoming days, we can get them back in the lineup and, you know, improve our team. So I know they're excited to get back here soon.
Pretty upset for him. Obviously, it's, you know, really unfortunate. I hope he's, you know, I hope the injury is not too serious. But yeah, just, you know, really tough luck for him. He was having such a good year, and he's a big part of this team as well. So just feel for him.
Ouais, je l'ai dit, je vais le répéter là. Goulet, il a fini tard à la Coupe Memorial l'an passé. Une première saison dans la Ligue nationale de hockey où il a joué des soirs 25 minutes. Aucun but de ramener ce gars-là pour deux matchs. Terminé, tu sais, la plug, on se reparle l'an prochain. C'est mon opinion. Bruno! On va pas revenir sur l'affaire Drouin, mais ça t'a fait sourire parce que t'as joué longtemps au hockey, puis t'as une couple d'anecdotes là-dessus.
Ben, puis comme je disais, tu sais, j'en parlais un petit peu avec Yannick avant de commencer. Il y a juste à Montréal que ça peut faire autant de vagues, puis autant de faire ouais, autant d'angles. Mais oui, c'est arrivé à différents endroits. Puis tu vois, j'en ai quelques-unes qui me venaient en tête, là, mais rapidement. Quand on parlait d'autobus, Guy parlait d'un épisode d'autobus. Dans la Ligue américaine, vers la fin de ma carrière, j'étais à Cleveland. Souvent, dans la Ligue américaine, tu veux sauver un peu les budgets. Hein? Tu veux sauver de l'argent. Fait qu'on prenait les vols à 6h, 6h30 le matin. Tu sais, le vol le moins cher. Et ça voulait dire que tu finissais ton match, tu rentrais à l'hôtel. Puis des fois, ton alarme, c'était 3h, 3h15 du matin pour embarquer dans l'autobus, te rendre à l'aéroport puis revenir à la maison. Ça, c'était pas évident. Puis il y a un matin, justement, l'autobus, c'était exemple, l'autobus à 3h45 ou 4h qu'on partait de l'hôtel. On est tous assis dans l'autobus. Ça jase pas beaucoup à cette heure-là. Les gars sont poqués un peu. Puis il arrive 4h. Puis là, t'as Dean Chenette. Il demande, est-ce que tout le monde est là? Là, il manquait un des Européens, une des recrues qui était pas là. Fait que les gars, ça faisait quelques minutes déjà qu'ils essayaient de le rejoindre, qu'ils appelaient. Puis Chenette disait, OK. Let's go! L'autobus y va. Fait que là, lui, il s'est réveillé. Il fallait qu'il trouve un moyen de se rendre à l'aéroport, attendre, pogner l'avion pour revenir avec nous autres. Fait que ça, c'était pas évident. Ça m'est arrivé, moi aussi, une fois, en Floride. On jouait contre les Panthers. Oh, ouais. Puis quand on était en Floride, on restait tout le temps un peu plus loin. T'sais, on allait dans un bel endroit sur le bord de la plage. Fait que c'était à peu près une demi-heure, 40 minutes de l'aréna. Il y avait souvent du trafic. Fait que l'autobus partait un peu plus tôt. Bon, je fais ma sieste d'après-midi avec mon co-chambreur. On se met une alarme qu'on met dans le milieu sur la petite table entre les deux lits. On se met une alarme, mais des fois pendant la saison, hein, t'accumules de la fatigue, peu importe. Mais l'alarme, elle a réveillé mon co-chambreur qui était Chris Campoli. Lui s'est levé, il a éteint tout de suite l'alarme. Il a commencé à s'habiller, il a fait des choses. Là, il voyait que je dormais, fait que lui, il s'est dit, je veux pas le déranger. Il est parti tout doucement. Mais je dormais, puis l'alarme qui était supposée me réveiller, elle avait sonné. Ah, j'y ai dit ma façon de penser, inquiétez-vous pas. Mais moi, quand je me suis réveillé en panique, mon co-chambreur n'est plus là. Là, il était 4h40, à peu près 4h45. L'autobus était à 4h30. Je suis là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Wow, attends une minute, essaie de comprendre ce qui se passe. Fait que là, j'appelle vite en bas, j'ai besoin d'un taxi tout de suite. Je me rappelle rentrer dans le taxi avec mes affaires, puis là, tu penses juste à ça. Tu as le meeting qui n'était pas longtemps après l'arrivée, puis. Parce qu'il y a des joueurs qui vont y aller en taxi, qui vont partir avant, qui veulent être là plus tôt, faire des bâtons. Fait que c'est pas tout le monde qui est dans le dernier autobus. Fait que tu sais, il y a pas de soupçons qui sont là. L'entraîneur va pas penser, ouais, peut-être il est arrivé de quoi, parce que jusqu'à temps que tu arrives au meeting d'équipe, une fois arrivé à l'aréna. Fait que j'étais rentré dans le taxi. J'ai dit, voilà, 100 piastres de bonus. Il faut que je sois à l'aréna à telle heure. Amène-moi là. On s'est rendu là.
Y a-tu réussi?
Ah oui, mais je suis arrivé à l'aréna, je suis arrivé en courant, puis là, j'avais comme détaché ma chemise en dessous de mon veston, puis je suis rentré, là, juste à temps de mettre ma combine, je suis rentré dans la chambre comme les gars faisaient. Ah oh ouais, OK, tout le monde est là, c'est beau. Puis là, je me suis assis, puis j'avais la goutte qui coulait ici, là. Je faisais juste fixer Chris Campoli, je dis, toi, après, on va se parler en tabarouette. Il me regardait, tu te faisais? Ah, oh, il y a quelqu'un qui est parti avec mon alarme!
Mais non, mais sérieusement, c'est pas fort de sa part, là, que t'es pas réveillé, tu sais. Voyons, le gars, il s'en va, il sait bien que tu dors bien dur, là. Franchement, c'est ordinaire, là. T'as changé de co-chambreur, c'est ça qu'on veut savoir.
Bon, j'ai gardé le co-chambreur, mais il y a eu des négociations très fortes après. Ça m'a donné pouvoir, là, je choisissais le lit, l'heure du repas, le poste de TV. J'avais la manette pendant un bon mois. Ah oui, ah oui, il a payé le prix. Mais tu vois, des fois, il arrive des incidents de même. Puis c'est arrivé dans le passé. Puis il y en a même un. C'est plate parce que j'ai perdu un ami très, très, très proche à moi dans une équipe. Je ne veux pas nommer de nom, mais il y a eu une soirée qui a comme été tirée un peu trop tard par un des vétérans. Lui, c'est un jeune joueur qui arrivait dans la Ligue nationale. Il était encore. Il venait d'avoir. C'était la première fois qu'il avait une place. Fait qu'il avait une lettre pour avoir une place. Fait qu'il pensait rester un petit bout. Puis tu vois, il y a un vétéran qui l'a amené dans la mauvaise direction complètement. Puis il a passé tout droit ce matin-là. Puis il y avait juste 7-8 joueurs qui patinaient. C'était comme optionnel pour plusieurs joueurs parce qu'il y avait eu un horaire assez chargé. Puis tous ceux-là qui jouaient, exemple, moins de 12 minutes, puis les gars qui étaient blessés, eux autres, il fallait qu'ils patinent à telle heure. Il lui a manqué son le réveil matin. Mais moi, je le savais par l'entremise de d'autres joueurs, tu sais, quel genre de soirée qu'il avait eu la veille, fait que là, tabarouette. Fait que aussitôt que j'ai vu que là, c'est l'heure qui serait supposé être là, il est pas là. Je suis rentré dans la salle des trainers, tu sais, de l'équipe médicale. Puis je dis là, Garrett, qui s'appelait à l'époque, je dis Garrett, prends le téléphone, t'appelles Nate, t'appelles le gars juste. Oh, ben, t'as venu, j'en ai. Excusez-moi, là, c'est non. Justement les sénateurs. Ah, je suis revenu. Parce que c'est. Je fais le match des sénateurs ce soir, puis là, on m'appelait pour régler les sujets. Je vais rappeler après. Fait que je dis à Garrett, hey, faut que tu l'appelles, il est pas là. T'appelles jusqu'à temps qu'il se lève. Et finalement, la personne est rejointe, arrive à l'aréna, s'habille vite. Puis la pratique est en cours. Puis il y avait Gard Snow qui était le directeur gérant à ce moment-là. Puis Gard Snow, c'était la première pratique de l'année qui passait à côté de la porte que tu dois prendre pour embarquer sur la glace. Fait que là, lui, il attendait là. Puis un moment donné, le gars, il est passé. C'est gêné, merci. Il a embarqué sur la patinoire. Il a fait sa pratique. Il était mis au balotage. Il a quitté les Islanders à ce moment-là avec une espèce d'histoire comme ça. Puis c'est plate. C'est un très bon joueur. Mauvaise décision, mauvais moment, mauvaise circonstance. Mais ça a été... Ça s'est très bien replacé pour lui. Après, même que ça a été... Après, là, quand tu regardes à tout ça, ça a été bénéfique. Mais sur le coup, il n'était pas gros dans ses shorts. C'était de quoi qu'il a appris. Ça l'a fessé, c'est certain. Est-ce que c'est un concours de circonstances? Est-ce que... Peu importe. Le message a été clair à travers le vestiaire. Le message a été clair partout. Mais c'est le genre de choses qui est arrivé. Fait que c'est dommage. Ça l'a pas fait couler tendance. Tout s'est tombé, mais pour lui, ça a été bénéfique. Plus tard.
Ben, en même temps, Bruno, ça m'amène à une question. Tu sais, quand tu es un jeune joueur, tu es une recrue, tu arrives dans une équipe puis que... Tu sais, toi, tu ne sais pas là, si c'est des bons vétérans ou des moins bons vétérans. Là. Tu sais, la seule affaire que tu veux, c'est que tu veux faire partie de la gang. Tu sais, tu veux être dans le groupe. Puis là, ben, tu le sais qu'il faut que tu te couches de bonne heure. Faut pas t'arriver en tort. Tu n'as pas de corde. Tu n'as pas de lousse à la corde. Tu es une recrue. Mais en même temps, tu as les vétérans qui veulent t'amener, qui veulent t'impliquer, qui veulent aller prendre une bière avec toi et tout ça. Ça, ça doit pas toujours être évident de prendre la bonne décision. Tu sais, c'est facile, là, assis ici, de dire, ben non, il y va, puis il prend un taxi, puis tu t'en reviens, puis le couvre-feu, tout ça. Mais, tu sais, quand t'es dedans, c'est pas nécessairement simple comme ça, là. Tu sais, je pense pas me tromper, là.
Ah, t'as entièrement raison. Puis c'est pour ça que t'as besoin de vétérans de qualité. Si tu veux pas que justement ces joueurs-là ces joueurs-là se retrouvent dans ces situations-là. Que ça soit à n'importe quel niveau, n'importe quelle sphère de la société, ces moments-là qu'on dirait que tu peux influencer par le groupe, tu peux influencer par ceux qui ont plus d'expérience, ceux qui sont plus haut placés. Fait que tu sais, des fois, c'est pas évident. Puis dans ce cas-là, tu sais, ça a été une situation, puis je me rappelle parce que c'était quelqu'un très près de moi, puis moi, j'avais été frappé par cette situation-là, et j'étais allé confronter ce vétéran-là pour dire, tu sais, toi, t'as un mot à dire, t'as quelque chose à faire là-dedans, puis tu peux parler, puis tu sais, viens au moins expliquer les circonstances, là, pas qu'il y a l'air du proche qui est tout seul là-dedans, etc. Fait qu'on avait une conversation animée et très intense à ce sujet-là, mais c'est là que tu le réalises, puis quand tu l'as vécu, t'es le jeune joueur, t'es vulnérable, t'es des fois dans des positions vulnérables, fait que le vétéran qui, des fois, va sentir même qu'il te pose la question, qu'il t'a laissé le choix, c'est pas un vrai choix. Tu sais, le jeune joueur qui veut bien faire, qui veut plaire, qui veut bien paraître, il va pas prendre les meilleures décisions selon ce qui est autour de lui. Fait que des fois, c'est là que tu as les vrais leaders, tu as les bons vétérans autour qui vont s'assurer que tu t'en vas dans la bonne direction puis que tu apprends de la bonne façon. Puis il y a des moments pour tout, c'est de choisir tes moments. Fait que ça avait été une situation que il avait laissé sa marque puis qui a super bien viré pour le joueur. Mais que, mettons, dans ces heures-là, ces jours-là, les premiers jours-là, c'était très difficile à avaler.
En tout cas, tu sais, Yann, tu disais Chris Campoli, pas fort, puis tout ça. C'est quand même la version de Bruno. Alors, pour en avoir le cœur net, on a Chris Campoli qui s'en vient.
Chris Campoli, c'est un gars... On est arrivé dans la Ligue américaine en même temps. On mis comme partner, on a été proches, on a vécu ensemble, j'ai été très, très proche de Chris Campoli, je l'ai adoré. Mais ça, c'était... Et Chris, j'ai tout le temps dit ça, tu sais, lui, c'est un, c'était un gars d'équipe, mais qui avait un gros côté. Pensait à lui, t'es égocentrique. Pensait à lui dans tout ça. Puis
selfish un peu.
100%. Un peu, tu sais, en autant que lui soit correct, puis des fois, ce concept-là de se, des fois, de penser aux autres autour de toi, puis de t'assurer qu'eux autres sont corrects au détriment de jamais. Puis ça, c'était des conversations qu'on avait souvent, mais tu sais, je vivais avec lui, je l'ai adoré, mais quand ça s'est arrivé, là, justement, là, j'ai dit, mais quoi, tu sais, ouais, mais là, on a une alarme ensemble, on s'est obstiné là-dessus, là. Comme un vieux couple pendant plusieurs mois, ça c'est certain.
Il y a des gens qui posent des questions. Est-ce que tous les joueurs vous appelez au front desk en plus de votre alarme pour avoir un wake-up call?
À partir de ce moment-là, moi j'avais mon cellulaire, j'avais l'alarme, le cadran qui est dans la chambre, puis j'avais un wake-up call à 5 minutes d'intervalle les trois. Okay. C'était ça, mais Il y en a encore, là. Moi, je connaissais des joueurs qui ne mettaient pas d'alarme. Parce qu'eux autres, dans leur tête, oh non, moi, je me lève. Un peu, c'est tout le monde, mais sinon, c'était le cellulaire. Sinon, c'était. Il y en a qui ne dormaient pas. Tu sais, ça, tout le monde avait sa route.
OK.
Ça,
autre question,
les wake-up calls d'hôtel, là. Vas-y, enchaîne. Je vais la compter après. C'est une petite anecdote sur les wake-up calls d'hôtel.
Ce que j'allais dire, c'est une question qui a été demandée pour Guy, puis j'ai dit oui, j'allais la poser, puis j'ai complètement oublié de la poser. Je me trompe-tu, Bruno, où il n'y a plus de couvre-feu dans la Ligue nationale de hockey? Tu sais, les coachs font « soyez responsables, puis arrangez-vous », il y a encore des couvre-feux, parce que la question de la personne, c'était « qu'est-ce qui est pire, manquer un couvre-feu ou manquer l'heure du meeting? »
Oh, bonne question! Bien, c'est certain que...
Y a-t-il encore des couvre-feux?
Ou quoi, je vais poser cette question-là, je vais envoyer quelques messages, puis d'après moi, oui, il y en a tout le temps eu. C'est de quoi qui est comme instauré en début d'année, pour justement pas que tu te retrouves dans une situation que le joueur va dire « Ah non, mais regarde, moi, j'ai pas besoin de dormir » ou « Ah, moi, ça fait partie de... » Fait qu'il y a une certaine heure que tu veux que les gars soient revenus à l'hôtel. Une heure pour fermer ta télévision puis dormir, ça, il n'y a pas... ça vérifie pas, puis c'est pas de ce côté-là. T'sais, au niveau junior... plus jeune. Je sais que des fois, il y en a qui font le tour, ils s'assurent que le monde dorme, puis etc. Mais dans la Ligue nationale, non. Mais il y a une heure pour être rentré la veille d'un match. Oui. Ça, je l'ai vu ça partout, dans les règlements d'équipe de début d'année, de début de saison, etc. La veille d'un match, quand t'as rien, là, t'as pas de match ce soir-là, il y a une heure à laquelle tu dois être rentré. À mes yeux, c'est tout le temps un concours de circonstances, là, mais je pense que comme Guy le mentionnait, le meeting, t'as pas d'excuse, t'as pas rien pour pas être là à temps, à ton meeting. Fait que je le mettrais une petite coche au-dessus du couvre-feu.
C'est Martin, tu voulais t'acheter avec une autre question? J'espère que t'en avais quelques-unes.
En plus, tu m'as écrit à toi.
Je vais faire, parce que tu l'avais en retard, je vais faire la pause, je vais te faire la pause parce qu'on termine la portion télé et on va poursuivre sur le web avec une petite anecdote que je vous raconte.
Bon, ben merci, je présume que ça, c'est la pause. Ben venez nous rejoindre sur le web, vous avez vu le carré, je sais pas comment on appelle ça, qu'on prend en photo pour venir nous voir sur le web. Le code QR, venez nous rejoindre, c'est intéressant à vos mères pour suivre sur le web.
Non, en fait, ce que j'allais demander tantôt, Bruno, parce que tu parlais, c'est Martin, je pense qu'il posait la question sur les wake-up calls d'hôtel. J'allais te demander, est-ce que ça t'est arrivé de te faire jouer un tour avec ça, les fameux wake-up calls d'hôtel? Parce que moi, ça m'est arrivé avec un gars qui joue encore dans la Ligue nationale. Puis je peux le raconter bien vite, mais c'est certain que ça vous est arrivé. Je ne sais pas de quelle façon ils gèrent ça ou que les équipes gèrent ça, mais moi, je raconte bien vite. Là, ça fait quelques années de ça. Là, j'étais en tournage pour Hors-jeu 2.0, puis je te montre en Floride. Et on fait un tournage avec Marc-André Fleury qui est sur la route. Donc, on tourne avec lui et tout ça. Puis, le soir, on soupe pas loin de notre hôtel. On n'était pas au même hôtel que... Je pense que je jouais avec les Pingouins à l'époque. On n'était pas au même hôtel que les Pingouins. Et il dit « Ah, je vais aller prendre un verre avec vous autres à l'hôtel avant de partir. » Puis, finalement, il vient faire un petit tour à notre hôtel. Puis, « Ciao, bye, bye, bye. » Puis, il s'en va. Puis, je m'en vais. Puis, je monte à ma chambre. Écoute, le lendemain matin... Mon téléphone sonne le lendemain matin, dans la nuit, 4h45. C'était le réveil de l'hôtel. Et là, je fais comme, non, je n'ai pas demandé de wake-up call. Je raccroche. à 5 heures, à 5 heures et quart, puis à 5 heures et demie. Puis là, j'ai su le lendemain, je fais un moment donné, j'ai allumé, là, j'ai dit ça, c'est sûr, c'est du flower, comme défaite.
Ouais.
Puis c'était lui, il était crampé le lendemain à la pratique quand on est allé tourner. Il dit, Pete, t'es-tu en forme, Yann? Écoute, j'étais debout depuis 4h45 dans la nuit, puis s'est assuré de m'en faire donner un aux 15 minutes pendant 45 minutes, je capotais. Mais c'est sûr qu'il y a des joueurs qui jouent des tours comme ça, là, mais je sais pas si ça existe encore, mais à l'époque, oui, ça arrivait, oui. C'est certain.
Et oui, ouais, c'est certain, j'imagine. Puis, tu sais, il y en a une bonne, une autre bonne, qui, parce qu'il y en a des fois qui arrivent, justement, pour ne pas se faire déranger, ils vont déploguer le téléphone, pour être sûr. Parce que ça arrive des fois, puis quand tu es sur la route, ouais. Des appels, fait qu'ils déploguent le téléphone. Une des bonnes, puis je l'ai vue à quelques reprises, je me l'ai fait faire par un gars avec qui je vivais, Ryan Caldwell, qui est maintenant dépisteur professionnel pour les Jets. Là. On vivait quatre gars, justement, ensemble, puis il me l'avait fait une fois. Mais ce que les gars font, c'est qu'exemple, Yann, mettons, on est dans le même hôtel. Plug mon cadran. Puis, tu sais, des fois, les gars, quand ils viennent de souper, peu importe, ils vont regarder la TV d'une chambre, ils jasent, ils vont jouer aux cartes, là, peu importe. Fait que tu rentres, mettons, je rentre dans ta chambre, puis, hey, on va regarder la TV, on regarde une game, peu importe. Puis, à un moment donné, là, quand j'ai un moment opportun, je plug mon alarme en dessous de ton lit. Fait que toi, t'es couché dans ton lit, ton alarme qui est là, ton cadran, tout est beau. Puis, à un moment donné, à 4 heures du matin, là, puis là, t'as beau taper sur l'alarme. Là, tu fais stop, t'arraches l'alarme du mur.
Ça marche pas.
Tu comprends rien. Ah oui, elle, tu l'as vu à l'œuvre. Ça, c'en est un autre bon.
Hey, ça, ah, c'est pire.
J'aime ça.
Ça, c'est pire.
Il y a bien du monde, tu sais, que si tu dis je veux pas nommer de nom, il y a bien du monde qui se sont mis à chercher. Il y en a qui disent Nate Thompson au ballottage en janvier 2010 avec les Islanders.
Oui, il a été au ballottage. Il est allé à Tampa, lui, après.
Les gens essaient de deviner, voir si c'était ton invité mystère.
Toi? Ah! Ah! Un bon gars! Un bon gars!
Il le dira pas.
Non, c'est correct. C'est correct. Moi, je fais juste dire que c'est sûr que les gens se sont mis sur le pitonnage après l'anecdote.
Mais pour Nate, ça l'a aidé sa carrière parce que là, il est tombé dans les mains de Guy Boucher. Il a eu une espèce de belle... une très belle carrière à Tampa. Le Canadien, les Kings, alors, ça, il s'est promené. Il joue encore avec le Ring de l'Ontario. Flyers, c'est vrai.
Rapidement, là, on n'a pas beaucoup de temps, mais rapidement, tu veux-tu y aller pour le hockey M18-3 ou sur Bennington?
Ben, dans le fond, j'en profiterai s'il ne reste pas beaucoup de temps. Là, c'est certain, on a les séries, puis Yann est impliqué là-dedans. Les Gaulois et les Cantoniers de Magog, les Gaulois de Saint-Hyacinthe, Cantoniers de Magog, ils sont dans la série 3-5, là, c'est 2-2. J'ai regardé 3 des 4 matchs parce que à RDA, j'ai été présent aux deux à Saint-Hyacinthe. Ça joue du hockey en tabarouette. Là, c'est un match ultime demain soir à Saint-Hyacinthe, à LP Gaucher. C'est une des très belles séries là, dans la Ligue présentement. Fait que ça, c'est la série demi-finale de division. Puis vu qu'il reste pas beaucoup de temps, ça. Ben, oh, Yann va être là en plus. Moi, je fais le match du Canadien, mais je vais regarder ça via Hockey TV par la bande pour suivre le dénouement de ce match-là. Mais il y a Hockey Québec qui vient justement de relâcher une nouvelle présentement. Ils ont fait leur communiqué de presse pour parler d'un partenariat avec Canadian Tire. Canadian Tire, qui est un gros commanditaire d'Hockey Canada. S'est rétracté quand tout ce qui est arrivé avec Hockey Canada, mais voulait absolument trouver une façon d'aider les jeunes et de continuer à investir dans le sport et à aider. Puis avec le partenariat avec Groupe Respect, vont justement payer certaines formations pour continuer d'améliorer et établir un environnement sain et sécuritaire autour des jeunes pour que ça soit vraiment un endroit où tu peux t'épanouir et un endroit où l'humain compte avant tout. Hockey Québec a embarqué là-dedans. Fait qu'il y a une promotion où il y a des formations qui vont être payées par Canadian Tire pendant les 3 prochains mois. Puis une de ces formations-là, c'est la formation parent. Ça dit pas comment être un parent. C'est loin de là. Mais ça peut montrer quelques erreurs qu'on peut faire. Puis, tu sais, il n'y a pas un parent qui se présente dans un aréna en se disant « Aujourd'hui, m'a t'engueulé l'arbitre, tu vas voir. » Sauf que dans un environnement où il y a beaucoup d'intensité, beaucoup d'émotions, des fois, on fait certaines erreurs que si on avait... une certaine éducation ou juste qu'on s'est une mise en garde de certaines choses ou une façon de comment réagir à certaines situations qui pourraient aider, puis qu'on voit la vision globale, la vision d'ensemble, puis qu'on soit capable de comprendre la perception des jeunes, on se rendrait compte des fois que certaines réactions peuvent être nocives. Puis voici juste le petit changement qu'on peut faire pour continuer à aider, que l'environnement soit sain, sécuritaire, que ce soit le fun pour les jeunes, pour les arbitres, tout le monde qui rentre dans l'aréna. Puis c'est une formation qu'Hockey Québec envisage sérieusement à mettre obligatoire à partir de l'année prochaine. Donc, présentement, elle est gratuite pour les trois prochains mois. C'est un beau bagage à avoir. Fait que là, on est à l'entrée. Là, on rentre en séries éliminatoires ou sont déjà en séries éliminatoires dans l'hockey mineur à toutes les catégories. Une chose peut-être d'avoir un petit rafraîchissement puis de juste qu'on se place là-dedans. Puis que c'est quoi gentil. Le but de tout ça?
Et que tu es gentil et poli.
Je sais.
Premièrement, bravo à Canadian Tire. D'ailleurs, il y aurait une formation à donner quelque part en Beauce à deux, trois innocents qui se sont tapés sur le nez pendant un match de hockey. Ça a fait le tour des nouvelles. Plessisville. Que tu es les jeunes avec le hockey qui tapent dans la ville qui disent « Papa, arrête ». Moi, ça me dépasse. Puis là, vous voyez le grand cœur et la bonté de Bruno Gervais, qui sera sûrement en politique un jour parce qu'il fait toutes les choses correctement, adéquatement, sans brusquer personne. Moi, ça serait bien plus simple que ça. Tu te lèves, tu cries après quelqu'un, t'es dehors de l'aréna, tu rentreras plus jamais dans un aréna au Québec, tu reverras plus jamais ton gars jouer au hockey. Puis je te le dis, au mois d'août, avant que la saison commence. D'ailleurs, j'avais préparé une présentation où que Bruno allait participer avec moi et Max Talbot. J'avais proposé ça à Hockey Québec avant Jocelyn Thibault, puis ça avait été refusé. Beaucoup trop drastique, Martin. Ah, bien, continuez à faire de la prévention, puis on va continuer à avoir du monde se taper sur le nez dans l'aréna. Ça, c'est moi. La bonne façon de faire, c'est celle de Bruno. Plus intelligente, plus adéquate, plus raffinée. Moi, c'est drastique. Mais bravo à Canadian Tire, puis j'espère qu'ils vont faire cette présentation-là aux gens de... Où t'as dit, Yann?
Plessisville.
Plessisville. Mais tu vois, arrête, t'es... Là,
hey. Ben, des fois, ça prend un peu de ça d'être drastique. Puis tu sais, dans tout ça, c'est parce que maintenant, avec les médias sociaux, c'est que chacune de ces situations-là, ils ressortent. Puis on entend parler un peu partout. T'sais, avant, c'est que ça passait en tout
cas. Oui, mais c'est ça.
Même un moment donné, c'était devenu la norme. T'sais, c'était normal. C'est pas normal. Sauf que c'est pas la majorité des parents qui ont cette influence-là puis qui agissent comme ça dans les estrades. Sauf mais que non. Ça arrive. Une des affaires qui est super intéressante avec cette formation-là, c'est que ça donne des outils aux témoins de ces situations-là. Comment voir qu'il y a une situation qui s'en vient? Comment la désamorcer sans confrontation. Parce que le but, c'est, tu vois, on parle de redonner le sport aux jeunes. C'est pas normal qu'il y ait autant d'émotions qui soient vécues dans les estrades puis que ces émotions-là deviennent prioritaires sur ce que le jeune, lui, peut vivre puis retirer de ce sport. Fait que c'est là où, puis, tu sais, c'est une formation. Moi, je suis un ancien joueur. J'ai eu des parents qui ont eu une approche que j'ai réalisée après mon hockey, ou bien plus tard, j'ai réalisé que j'ai été chanceux de cette approche-là parce que ça m'a permis de développer une passion puis des outils. J'ai été entraîneur, je suis impliqué avec la structure. Je suis le papa d'un garçon qui est tombé dans marmite quand il était jeune, fait qu'il adore le hockey. Là-dedans. Il y a des situations ou mes façons de penser, puis là, j'essaie d'amener juste des belles valeurs humaines à mon gars, puis à l'équipe. Des fois, je réalise avec le pas de recul, c'est quoi la perception des jeunes? Cette formation-là t'aide à... C'est quoi la perception? Puis eux autres sont là pourquoi? Et eux autres, la priorité, mais ils sont là pourquoi? Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment les aider à s'épanouir, à développer une passion?
Fun. Bien, c'est ça.
Moi, j'entends trop souvent, je l'ai vécu avec la structure, je l'ai entendu parler un peu partout. Pas normal qu'un jeune arrive à 14, 15, 16 ans, qui réussit à faire l'équipe, qui rêve de faire... La poignée de main après le camp de sélection, le coach dit bravo, tu fais l'équipe. Il répond au coach, coach, ça c'est ma dernière saison de hockey, je suis plus capable. C'est pas, tu sais, il y a quelque chose qui, en cours de route, des fois, on veut bien faire. Les intentions sont tout le temps très bonnes. Est-ce qu'on s'y prend de la bonne manière? Puis est-ce qu'on regarde de la bonne façon? C'est quoi le succès? C'est quoi les, est-ce qu'on y va par les résultats? Mais... C'est quoi vraiment qu'on veut sortir du sport?
Exact. Mais... Exact. Je m'excuse, Yann. C'est plus fort que moi. Je m'excuse. L'activité de l'enfant, c'est ça que c'est. Et c'est un privilège pour le parent d'y assister. T'es pas, nulle part, c'est écrit que je suis obligé de t'accepter. C'est l'activité du kid. Puis si tu comprends pas le parent, je l'ai déjà dit, je vais le répéter. J'ai des amis qui ont fait ça au baseball. Le parent qui arrête pas de crier, là, c'est toutes les prises. Puis mets ton œil sur la balle, puis swing, puis ah ouais, plus vite, puis cours. À un moment donné, les coachs l'ont mis au bâton dans une pratique, puis ils ont mis tous les jeunes autour du backstop. Puis ils ont dit, dites à ce parent-là tout ce qu'il dit pendant une game. Ça n'a pas pris deux lancers qui ont regardé les kids, il a fait, OK, ça fâche pas si pire que ça. Puis ils l'ont tout regardé, ils ont fait, oui, c'est aussi désagréable que ça. Fait que,
ouais,
aimeriez-vous ça pendant que vous jouez aux cartes avec vos chums, que vos enfants soient autour de vous, puis, ah ouais, all-in, vas-y! Vous devriez avoir cette énergie-là pour encourager vos enfants parce que vous pensez que vous encouragez vos enfants dans leurs devoirs et non pas dans leur activité de hockey sous prétexte que vous connaissez ça, le hockey. Anyway. Vas-y, Yann.
Mais le sujet... Non, mais j'allais juste dire que le sujet est tellement intéressant puis on n'en parle pas assez. On devrait le faire à cette émission-là. Puis je sais que Bruno, ça t'allume puis tu es impliqué sur plein de comités avec respect, entre autres, et tout ça. Puis moi aussi, ça vient me chercher, puis ça, tu vous le dis, les gens le savent, là, je mets énormément de temps là, personnel là-dedans. Tu sais, puis moi aussi, là, mes enfants jouent au hockey et tout ça. Mais on va le faire. On va le faire. De toute façon, là, le Canadien, quand même, il y a une journée qu'on n'en parle pas trop, c'est pas trop grave. Là. Mais on va le faire avec différents intervenants, puis ça sera le fun. Justement, parce qu'il se passe aussi des belles choses, puis je termine là-dessus.
Oui.
Tu sais, moi, j'ai vu, en fin de semaine, trois matchs, mais déjà trois de série très intenses, que des bonnes mises en échec, ça patinait, puis on était en série éliminatoire, il ne s'est rien passé dans les estrades, tout était en un. Tu sais, il se passe aussi des belles choses, parce qu'on parle souvent des mauvaises choses dans les médias ou sur les médias sociaux.
Ah, ben oui.
Quand il s'en passe des bonnes, on n'en parle pas, donc c'est important de le dire. Bref, on va le faire d'ici la fin de la saison.
Ben oui,
by far. Là. Ben exact. Bruno, toujours un plaisir, mon ami.
Hey, on se reparle bientôt,
puis bonne chance avec ton équipe demain.
Merci bien.
Salut,
salut la gang.
Martin, allons-y avec les étoiles du jour.
La troisième étoile, le third star du RDS.ca, Ricky in Tampa. Prenez la peine d'écrire votre nom de famille, s'il vous plaît.
La deuxième étoile, le second star du Facebook RDS, Marc-Antoine Daou.
Et la première étoile, the first star du YouTube, Alexandre Houle. Cool.
Alors voilà, c'est complet pour aujourd'hui. Merci à Guy Boucher et Bruno Gervais, toute notre équipe de production en régie à RDS, à nous Grignon-Langlais, l'équipe de Sport 30 dans la salle des nouvelles. Merci à Mathieu Bédard aux médias sociaux et Valérie Gautran à la réalisation et mise en onde de cette émission. Merci à Guy Boucher et Bruno Gervais et à vous tous les jaseux d'être avec nous et de nous suivre. Demain, Guy Boucher sera de retour en compagnie de Benoît Brunet.
Soyez prudents dans les arénas. On en a parlé un peu, là. Vous avez un kid, un neveu qui joue au hockey, puis vous êtes du type pas beaucoup de patience, hot temper. Assoyez-vous à côté de gens que vous connaissez, puis avouez que vous êtes ce type de personne-là, puis dit, hey, je vais avoir besoin de quelqu'un qui me tienne un peu parce que d'un coup, je l'échappe. Vous ne rendez pas service à personne quand que vous êtes débile dans les estrades comme ça. Même si vous trouvez qu'il y a une injustice sur la glace, n'oubliez jamais que c'est un jeu puis qu'il n'y a personne qui gagne des millions dans ça.
C'est un sport.
C'est ça. Puis, tu sais, si vous avez envie de crier après un arbitre, dites-vous que l'arbitre, c'est, mettons, je sais pas moi, dites-vous que l'arbitre, au lieu d'être votre un jeune gars. Homme de 16 ans, frêle sur qui, votre gars, ou seriez-vous aussi impulsif si le gars qui était à ses patins, c'était Georges Saint-Pierre puis qu'il pouvait vous la péter en deux secondes? T'sais? D'après moi, tu te garderais une gêne. Fait que, anyway. Ou si c'était votre gars, ouais. Fait que prenez soin de vous autres. Yann, salutations à nos mères. Câlin à vos enfants. On se parle demain.